Nous sommes Acadie. Nous sommes Oui 98.5 FM.
Bonjour Caroline Fitzpatrick, vous êtes enseignante et chercheuse pour l'Université Sainte-Anne. Est-ce que vous pourriez vous présenter?
Absolument. Donc, je suis professeure de psychologie à l'Université Sainte-Anne, donc professeure et chercheur. Je suis également directrice de notre laboratoire d'études sur la petite enfance. Et également, depuis 2012, je suis aussi chercheure affiliée à l'Université de Johannesburg dans leur centre de recherche sur les pratiques en éducation.
Et alors, une des périodes qui vous intéresse le plus au niveau de l'éducation, c'est celle de la petite enfance. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ce choix?
Oui, donc je suis très intéressée par les enjeux liés à l'inégalité en matière de santé et en éducation. Et je pense qu'une des meilleures façons d'aborder ces inégalités-là et de les comprendre et d'essayer d'y remédier, c'est de s'intéresser à la petite enfance. Parce que malheureusement, ces inégalités-là commencent très tôt. Et c'est généralement en petite enfance qu'on peut faire une plus grande différence.
Et alors, justement, vous réalisez actuellement une étude avec l'Université Sainte-Anne sur les comportements des jeunes enfants et des familles avec les écrans. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus?
Donc, initialement, c'était une étude qui s'intéressait plus généralement à l'usage des écrans par les enfants d'âge préscolaire et leur famille, donc eux-mêmes et aussi leurs parents. Avant que la COVID, avant qu'on rentre dans la crise de COVID, c'était une préoccupation assez importante. Est-ce que les écrans apportent un bienfait éducatif? Est-ce que les écrans sont plutôt nuisibles? Et comment est-ce qu'on examine tout ça? Et dans mes recherches dans le passé, j'avais étudié l'effet du temps d'écran, mais principalement la télévision, ce qu'on appelle les plus anciens écrans maintenant, les écrans qui n'étaient pas portables. Et ce qu'on avait trouvé, mes collègues et moi-même, était que les enfants qui passaient plus de temps devant la télévision à l'âge préscolaire, avaient tendance à accumuler des retards au niveau langagier, au niveau académique, avaient plus de problèmes interpersonnels et avaient aussi des problèmes de santé, donc une tendance à développer un surplus de poids et avaient des moins bonnes habiletés motrices, un moins bon potentiel athlétique. Ce qui est arrivé dans les 10 ans qui ont suivi, c'est que la technologie a fait en sorte que les écrans sont tout d'un coup devenus très, très différents, sont devenus portables, sont devenus interactifs. Ce qui a changé, la nature des interactions que les personnes ont avec ces écrans-là. Avant, on s'assoyait une heure ou deux devant la télévision. Maintenant, on peut utiliser un téléphone intelligent en même temps qu'être sur le laptop, en même temps qu'écouter de la musique. Donc, il y a un usage intermittent qui est très différent. On peut reconnaître que, oui, il y a potentiellement certaines applications même qui peuvent avoir une valeur éducative. Donc, ce qui devient important, c'est d'étudier les écrans de façon un peu plus complexe. Donc, de considérer quel type d'écran on utilise, quel type de contenu, dans quel contexte on les utilise et aussi pour combien de temps on les utilise. Donc, l'étude qui a été motivée par ces aspects-là de la technologie qui avait changé, un besoin de mieux prendre en plus de détails, oui, on sait que le temps d'écran trop présent dans les écrans, ça peut avoir des effets négatifs, mais il y a peut-être aussi certains usages de certaines applications, de certains écrans qui sont éducatifs, qui pourraient apporter certains avantages éducatifs, mais bien, il faut les donner pour l'évaluer.
Alors là, justement, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y aurait d'une part l'écran, l'objet technologique en lui-même, et d'autre part les usages, c'est-à-dire ce que l'on fait avec. Dans cette étude, le but, c'est vraiment de bien séparer les deux également?
Dans une certaine mesure, oui. Je pense qu'il y a... c'est important de séparer ce qu'on répare, les contenus. Donc, on peut utiliser un iPad pour regarder des films, pour jouer à des jeux. On peut aussi s'en servir pour aller sur l'Internet, jouer à des jeux éducatifs. Donc, je pense que c'est important de comprendre que la tablette a certaines caractéristiques. C'est quelque chose de portable. Donc, on peut l'utiliser dans le contexte de d'autres activités qui la distinguent de la télévision. Mais aussi, on peut s'alimenter de contenus absolument éducatif sur la tablette, tandis qu'on peut aussi utiliser la tablette pour vraiment sans aucune fin éducative. Donc, c'est important de considérer les appareils, les contenus de façon séparée.
Et alors, on a envie de vous demander, mais est-ce que vous avez déjà des pistes de conclusion, sur cette étude et surtout quels vont être les indicateurs que vous allez regarder entre le jeune enfant et l'écran?
Dans un premier temps, on s'intéresse donc au temps que les jeunes enfants vont passer avec ces différents types d'écrans-là, aussi quel type de contenu, quels sont les types de contenus auxquels ils vont être exposés sur ces écrans-là, et aussi dans quel contexte ils vont utiliser les écrans. Donc, par exemple, est-ce que l'enfant va utiliser une tablette seule ou est-ce qu'il va être accompagné de parents lorsqu'il utilise la tablette? Donc, je pense que logiquement, on va s'attendre à ce que lorsque l'enfant il est plus accompagné, utilise et interagit avec des contenus qui sont plus éducatifs et plus interactifs. Un parfait exemple de ça, ça serait d'utiliser un appareil d'utiliser les vidéos chat. Donc, quelqu'un qui va, oui, l'enfant utilise une tablette, mais c'est pour communiquer, rentrer en contact avec un parent ou un autre membre de la famille. Ce genre de pratique-là, on a pour hypothèse, vont probablement apporter des bienfaits au niveau de la communication, le développement de compétences sociales. Alors que l'usage de d'écran pour seulement pour des fins de distraction, seulement pour le divertissement, et lorsque l'enfant utilise souvent des tablettes de façon non accompagnée, on s'attend à ce que ces contextes-là soient un peu plus associés à des risques au niveau du développement.
Alors, votre étude, elle tombe également à un moment où on voit émerger un petit peu cette question des boomers, donc des personnes qui sont retraitées maintenant et qui voient peut-être un petit peu la société actuelle comme étant peut-être dévoyée par la technologie. On se rappelle de ces images de jeunes autour d'une table qui, au lieu de parler avec les uns avec les autres, sont tous sur leur téléphone. Est-ce que cette étude, elle tente de répondre aussi à cette question-là? Est-ce que les jeunes générations vivront moins bien à cause de la technologie?
Oui, c'est extrêmement intéressant. C'est une des choses qui nous intéresse aussi, c'est cette question-là d'emploi du temps. Parce que c'est peut-être pas seulement une question de pointer du doigt le temps d'écran, mais aussi c'est s'assurer que l'enfant a un équilibre dans sa vie. Donc, oui, l'enfant peut passer une ou deux heures avec un écran, mais s'il dort bien, s'il a aussi du temps pour interagir avec des membres de la famille et des amis, s'il lui reste encore du temps pour aller jouer dehors, je pense que dans un contexte comme celui-là, on va probablement pas voir des effets négatifs très prononcés. Mais lorsque les écrans commencent à empiéter sur d'autres activités qui sont extrêmement importantes pour le développement, c'est peut-être plus là qu'on va commencer à voir un appauvrissement au niveau langagier ou certains retards au niveau moteur et ainsi de suite.
Alors justement, il y a un petit mythe autour de cette question. On parle souvent des patrons de la Silicon Valley, donc des entreprises hautement technologiques qui produisent justement des dispositifs numériques et des écrans, etc. et qui mettraient tous leurs enfants dans des écoles sans aucune technologie. Alors, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité?
Bien, écoute, c'est quelque chose que j'ai aussi déjà cité dans les entrevues. C'est basé, je pense, sur ce qu'on pourrait appeler peut-être plus des études de cas. Donc, Bill Gates, qui aurait avoué dans une entrevue avoir sérieusement limité le temps d'écran de ses propres enfants. Une autre anecdote qui vient en tête, c'est cette histoire que dans la vallée du Silicon, les écoles les plus prestigieuses, les plus chères, ce sont des écoles Waldorf où on n'utilise aucune technologie parce qu'on est revenu vraiment papier, crayon, tableau, craie. Oui. Donc, je pense que c'est une piste de réflexion qui est intéressante. Je pense que cela semble démontrer, puis encore une fois, c'est plus des études de cas, c'est des événements peut-être isolés, mais quand même des événements illustratifs, c'est que la technologie est probablement pas nécessaire. Donc, on a vu l'introduction de la technologie dans les salles de classe comme un exemple incontournable de la technologie, comment il faut absolument profiter de cette ère-là, que ça apporte forcément du bien et du progrès, mais je pense que c'est pas forcément le cas. Je pense que l'éducation peut se faire sans technologie, et d'ailleurs, elle semble se faire sans technologie, avec des assez bons résultats. Donc, c'est, je pense que c'est important d'y réfléchir dans ce sens-là.
Ce que votre réponse soulève comme question, c'est que, selon vous, la technologie pourrait être un facteur de reproduction sociale. C'est-à-dire que les conditions sociales des parents se reproduiraient sur les enfants et que la technologie ne serait pas innocente. C'est ça?
Oui, ça me fait penser, c'est intéressant, dans une étude que j'ai réalisée avec des collègues à l'Université de New York, on a examiné un échantillon de jeunes enfants d'âge préscolaire où la moitié était favorisés, donc étaient tous inscrits dans des écoles préscolaires avec des frais de scolarité très élevés. Il y avait un autre groupe qui était dans des préscolaires qui étaient subventionnés par l'État, donc un groupe très favorisé, mais un groupe plutôt défavorisé. Et on a regardé ces deux groupes-là et on a comparé leurs habitudes de temps d'écran. Ce qu'on a trouvé, c'est que les enfants défavorisés passaient le plus de temps devant les écrans et étaient aussi plus susceptibles de passer du temps devant les écrans sans supervision parentale. Et ceci s'explique évidemment par le fait, c'est pas parce que les parents défavorisés sont de moins bons parents, mais souvent ce sont des parents qui ont des heures de travail plus longues, qui doivent travailler plus d'un emploi, donc ont moins le temps de faire cette supervision-là. Malheureusement, ce qu'on a trouvé aussi dans notre échantillon, c'est que le temps d'écran, donc pour chaque heure passée devant les écrans, les effets négatifs étaient plus prononcés pour les enfants de milieux défavorisés. Donc, il y a aussi, en termes de... C'est pas tous les enfants qui ont la même vulnérabilité, la même sensibilité envers les écrans. Ça peut être au niveau du statut socio-économique des familles, mais ça peut aussi être au niveau du tempérament des enfants. Certains enfants qui sont peut-être un peu plus impulsifs, plus de difficultés à contrôler leurs émotions, mais ces enfants-là peuvent être un peu plus sensibles aux écrans. Et les effets peuvent être plus prononcés.
Alors là, moi, je me mets à la place des parents de jeunes enfants qui nous écoutent actuellement et qui sont peut-être en train de paniquer. Quelles seraient les recommandations que vous donneriez aux parents de jeunes enfants?
En termes de recommandations pour les parents, je pense que la meilleure chose, c'est de suivre les recommandations de l'Organisme mondial de la santé. Donc, ce que ces recommandations-là sont pour les enfants, c'est on recommande, on conseille fortement que les enfants, avant l'âge de 2 ans, soient exposés à zéro temps d'écran, avec l'exception des vidéochats. Donc, le Skype ou le FaceTime, ceux-ci sont permis et même encouragés. Ensuite, entre les âges de 2 et 5 ans, on recommande un maximum d'une heure de temps d'écran par jour. Et pour les enfants plus âgés, donc 5 et plus, on recommande un maximum de 2 heures de temps d'écran par jour.
Alors ça, ce sont les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, mais c'est également vos recommandations à vous en tant que chercheuse, c'est ça?
Oui.
D'accord. Alors, nous voilà du coup plus éclairés sur la question des écrans avec les jeunes enfants. Merci beaucoup pour ces explications, Caroline Fitzpatrick. Bonne chance et bon courage dans cette étude que vous menez avec l'Université Sainte-Anne.
Merci beaucoup.
On souhaite à tous nos auditeurs une très bonne journée et on se dit à la prochaine pour une prochaine entrevue.
Nous sommes Oui 98.5 FM.